Le jeune Long est un voleur. Il n'a pas 20 ans, mais son visage présente des rides profondes au front et au coin de l'œil. Il est robuste, tenace, et ne garde que du jeune homme que ce côté espiègle qu'on lui a toujours connu. Le voilà sur la route aride. Il n'y a nulle forêt aux alentours, pas même un bois où se cacher. Cela fait 2 jours qu'il court à petite foulée, un sac sur le dos. Au loin, un nuage de poussière menaçant. Ce sont les hommes en armes qui l'ont pris en chasse. Cette fois-ci, il a volé un sac de riz à un commerçant réputé de la ville. Jusque-là, il ne s'est jamais fait prendre, et c'est même la première fois qu'on lui court après pour un pauvre sac de riz. Le sac lui avait paru fort lourd, certes, mais il s'était dit que le riz avait été bien tassé, et qu'il devait être fort bon pour qu'on envoie 5 soldats à ses trousses. Il redouble d'efforts à la vue de la colline. Il prend son élan et monte la pente d'une traite. Sa bouche est pleine de bave et ses naseaux expulsent l'air avec force. Tout en haut de la colline se trouve un arbre millénaire. Et au pied de l'arbre, un homme est assis en tailleur. Long le voleur s'arrête un instant, tente de retenir sa respiration pour ne pas troubler la méditation du vieillard, puis reprend sa course folle. Il descend la pente à toute allure, revigoré à la simple vue de la vallée verdoyante et des villages construits çà et là. Il allait pouvoir enfin se cacher et dormir un peu. 1 heure plus tard, les hommes en armes arrivent sur le haut de la colline. Aucun n'ose interroger le sage assis en tailleur. Il passe devant lui aussi discrètement que possible. Et arrivé au bas de la colline, l'un des soldats interroge son capitaine. « Que fait-on maintenant ?» Le capitaine regarde à l'horizon. Il y a 10 de villages. Il soupire et dit « Mes amis, nous allons inspecter chaque recoin de chaque village. Si l'un des villageois s'oppose à l'inspection, arrêtez-le. Quant aux autres, proposez-leur un peu d'or. » Long le voleur n'était pas allé bien loin. À bout de force, il s'était écroulé sur la paille d'une grange, le sac sous le bras. Mais bientôt, il se réveille et tend l'oreille. « Un voleur est dans les parages » peut-il entendre à travers le bois de la grange. « 10 écus si tu me dis où se cache ce rat !» Long retient son souffle. Il en trouve lentement le sac de riz qu'il a volé. Et le sac est rempli d'or. De grosses pièces baignent entre les grains de riz. Il comprend pourquoi ils l'ont pris en chasse. Puis il se dit qu'il va s'en sortir, comme il l'a toujours fait. Sauf que cette fois, il aurait suffisamment d'or pour acheter un coin de campagne et arrêter de courir les routes. De l'autre côté du mur en bois, le villageois est en proie à un dilemme. Il connaît Long depuis son plus jeune âge. À vrai dire, tout le monde le connaît. C'est un voleur, certes, mais ce n'est qu'un enfant. Le soldat sort alors ses menottes en fer rouillé et ajoute « Fais ton choix, campagnard, ou tu pourrais plus revoir ta femme et tes enfants. À moins que ce ne soit ta basse-cour et tes cochons que tu chéris plus que tout au monde. » L'autre soldat laisse échapper un rire graveleux. Le villageois baisse le regard. C'est évident qu'il sait où se cache le jeune Long. Le soldat le voit bien. Le villageois relève enfin la tête, puis il tend le bras vers le mur de la grange. Le soldat regarde vers la grange, puis sourit au villageois. Il lui tape sur l'épaule et remet 10 écus au mouchard. Le soldat dit à son binôme « Va chercher le capitaine et les autres !» Quelques minutes plus tard, les 5 soldats ouvrent les grandes portes de la grange. « Sors de là !» s'écrie le capitaine. Mais naturellement, Long reste caché derrière la paille et bien au fond de la grange. Derrière les soldats, le villageois aux 10 écus attend le regard inquiet. Dans son intérieur, il est confus. Il espère qu'il n'arrivera rien de grave à Long, mais il ne regrette pas tout à fait son geste. Avec 10 écus d'or, finit les poules et le labeur à l'aube. Il enverrait même ses enfants à l'école avec tout cet argent. « Comme tu veux !» dit soudain le capitaine. « Restez là, ordonne-t-il à ses hommes, je reviens. »« Villageois, dit-il encore, Va donc nous chercher l'une de tes poules. » Le villageois s'exécute et le capitaine s'en va en direction du temple. Le temple n'a pas fière allure, mais les habitants ont recouvert ses murs de motifs colorés. Le capitaine y entre d'un pas décidé, sans prêter attention au moine qui le somme d'ôter ses bottes pleines de boue. L'homme en armes va vers l'âtre et y allume une torche. Après quoi il ressort et tous les habitants cessent un instant leur occupation pour comprendre ce qu'il se passe. Le capitaine arrive devant la grange et jette sans plus de cérémonie la torche à l'intérieur. En un instant, le feu consume la paille et gagne les parois en bois. Le villageois revient en courant une poule dans les bras.
« Ma grange ! Qu'avez-vous fait à ma grange ?»«
Tais-toi !» dit le capitaine. « Tu pourras reconstruire 10 granges avec tes écus. Et maintenant, donne-moi cette poule. C'est l'heure de manger. » Et sur ces mots, le capitaine décapite la poule avant de l'embrocher à sa lance. Ses soldats ont déjà dressé une table et des chaises avec des tonneaux trouvés çà et là. Et une femme leur sert de l'alcool de riz. Le capitaine donne la lance au villageois et dit « Fais donc cuire ce poulet !» Le villageois obéit. Il sue, il pleure et tousse tout à la fois. Soudain, l'oncle surgit des flammes et vient s'étaler dans la boue de tout son long. Il a toujours le sac avec lui.
« Ha ha !»
s'exclame le capitaine. « On dirait bien que notre voleur revient des enfers !» Le soldat se lève et s'apprête à saisir le sac. Mais l'oncle bondit comme un diable et donne un coup de poing violent au soldat, avant de prendre la fuite. Malheureusement pour lui, vous vous en doutez, il ne va pas bien loin. L'un des villageois lui fait un croche-patte et les soldats s'en saisissent. « Merci, brave forgeron, » dit le capitaine au villageois. « Tiens, voilà 10 écus pour ton aide. » Le forgeron les prend sans hésiter et jette le petit sac de pièces à sa femme. « Je vous en prie !» dit alors le forgeron sur un ton qui ne lui ressemble pas. « Ce voleur m'a déjà volé par le passé. Il était temps que quelqu'un l'arrête. » C'est ainsi que Long se retrouve sur la grande place, une corde autour du cou. Il va être pendu pour l'exemple. Le capitaine s'apprête à faire basculer le tabouret sous ses pieds quand quelqu'un s'écrie
« Cessez cette folie !»
C'est le sage qui arrive au loin. Il a quitté son arbre pour l'occasion. Il est respecté. On sait que beaucoup de princes l'estiment et qu'il serait même bons amis avec la plupart. Aussi, sa parole a un poids. Aller contre le sage, c'est se mettre un prince à dos, à tous les coups.
« Mais grand sage, » dit le capitaine, « cet homme mérite la potence. Regardez ce qu'il a volé à notre maître. »
Le capitaine montre l'or du sac de riz.
« Long pensait avoir volé un sac de riz, » dit alors le sage. « Voilà tout. Cela ne mérite pas la mort, n'est-ce pas ?
Relâchez-le, séance tenante. » Les hommes en armes se regardent, fort embêtés. Si le sage s'oppose à la sentence, il ne reste pas grand-chose à faire. Un mot de lui au prince, et ses 5 hommes finissent aux oubliettes. D'autant que le sage ajoute
« Dis-moi, soldat, quel genre de maître sers-tu ?
Un riche commerçant de la ville, grand sage. »
« Ce n'est pas ma question, soldat. Quel genre de maître sers-tu ? »
Le soldat reste de marbre.
« Je vais te le dire, » dit le sage. « Tu sers un homme de peu. »
Long a le sourire aux lèvres. Il sait que son heure n'a pas sonné. Les soldats, quant à eux, sont outrés par les propos du sage, mais ils n'osent rien rétorquer.
« Votre maître cache de l'or dans des sacs de riz, » dit le sage à l'endroit des autres soldats.
« Votre maître est malhonnête. » La honte s'empare des soldats. Une honte profonde. Le forgeron et le villageois au poulet embroché ont honte eux aussi. Ils baissent tous la tête, sauf le capitaine, qui défie le sage du regard par orgueil, parce qu'il est le capitaine.
« Détachez donc ce pauvre malfrat, » dit le sage, « et allez dire à votre maître que l'or bien gagné s'expose au grand jour et qu'il se déclare aux impôts princiers. »
Les soldats détachent Long et repartent avec le sac de riz, le sac aux pièces d'or. Quant aux forgerons et aux villageois, ils vont timidement voir le sage Il s'incline légèrement, puis lui tendent les écus bien mal gagnés. Le sage les prend sans rien dire et va les jeter dans le feu de la grange. Tous reprennent leur labeur, sauf Long. Long, qui, tout sourire, ose même taper sur l'épaule du sage en guise de remerciement. Le sage lui adresse un regard inquisiteur et dit
« Qu'est devenu le Long ?» Le Long expiègle qui voulait parcourir le monde.
Long ne répond rien. Le sage s'éloigne.
Soudain, Long trouve quoi répondre et s'écrie.
Je parcours les routes, grand sage, comme je l'ai toujours voulu.
Le sage s'arrête, se retourne légèrement, puis se met à rire. Il s'éloigne en riant, laissant Long sur la grande place. 2 mois plus tard, le sage voulait s'entretenir avec le prince. Il espérait être de bons conseils pour rétablir la paix dans la région et forger un empire solide. Le prince l'estimait certes, mais cette estime n'était pas encore assez grande pour qu'il renonce à la guerre, comme le sage le lui avait demandé. Le sage se présente à l'entrée de la ville, il y croise le capitaine qui s'incline légèrement en guise de respect. Mais le sage perçoit de la malice dans le sourire du capitaine. Il pressent que quelque chose ne va pas. Il poursuit son chemin, passe devant les étals de marchandises. La ville est en effervescence et le ciel est dégagé. Pourtant, une tragédie venait juste de se produire, juste là, sur la place centrale, devant les appartements princiers. Au détour d'une échoppe, le sage découvre Long. Le jeune homme a été pendu aux yeux de tous. Cette fois pour avoir volé les bijoux d'une courtisane. Une femme pleure aux pieds de la potence. Le sage ne peut contenir ses larmes. Il n'avait jamais été démonstratif envers Long, mais il avait toujours eu pour lui les sentiments les plus tendres. À vrai dire, le sage n'avait pas toujours été l'homme respectable qu'il était. Il avait été tout aussi espiègle et fou que le jeune Long. Il repensait à son enfance en cet instant, et à la fois où il avait séché les cours. Sa mère, fort contrariée, avait alors déchiré la belle étoffe qu'elle s'était éreintée à broder des jours durant. Le garçon qu'il était avait alors demandé « Mère, pourquoi déchires-tu un si bel ouvrage ?» Ce sur quoi la mère avait répondu « Tu sais maintenant ce que je ressens, à voir mon fils sécher les cours. » Dès lors, le jeune avait été un étudiant assidu et il était devenu le grand sage que tout le monde respectait. Il avait espéré la même trajectoire pour Long. Le sage sèche ses larmes d'un revers de manche, puis s'approche de la mère en deuil. Il hésite, puis déclare ces mots terribles. « Ne pleure plus, vieille femme. Ce n'est pas le ciel qui a tranché prématurément le fil de la vie de ton fils. C'est ton fils qui, par ses égarements, s'est attiré lui-même la mort au milieu de sa vie. » La pauvre mère cesse de pleurer. Elle sait combien le sage a raison. Elle le regarde s'éloigner en direction du palais princier et le maudit en silence avant de se maudire elle-même.